Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les ruines de l'organisation État islamique sont encore fumantes en Syrie et déjà la première bataille de l'après-Daesh a surgi. La Turquie en est à l'origine avec cette offensive d'Ankara dans la région d'Afrine, dans le nord de la Syrie. Le grand jeu des alliances dans la tragique affaire syrienne est relancé qui oppose la Turquie aux milices kurdes des unités de protection du peuple, YPG, soutenues par les États-Unis. Turquie et États-Unis qui sont par ailleurs alliés au sein de l'OTAN. L'après-Daesh sort-il vraiment la fin du chaos? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Myriam Benrad, professeure en sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Son dernier ouvrage, Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Les milices kurdes des unités de protection du peuple YPG sont le bras armé du parti de l'Union démocratique PYD, lui-même considéré comme la branche syrienne du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan impliqué dans une guérilla en Turquie. Washington s'est, semble-t-il, assez largement appuyé depuis 2014 sur les combattants du YPG pour porter l'offensive contre l'État islamique en Syrie sans avoir à déployer de troupes américaines au sol. La Russie a-t-elle donné le feu vert à l'opération turque? Doit-on craindre un clash direct entre les deux alliés que sont les États-Unis et la Turquie au sein de l'OTAN? Jean-Pierre Filiu.
Non, il n'y aura pas de clash. Les États-Unis sont fort peu présents dans la zone concernée, la zone donc dite d'Afrine, qu'on désigne en arabe comme le Jebel Akra de la montagne des Kurdes. Pour la clarté du propos, je parlerai de PKK plutôt que des différents sigles PYD, PYG, voire FDS, Force démocratique syrienne. Il se trouve que j'avais rencontré récemment le commissaire politique du PKK pour la zone d'Afrine. Et donc, cette enclave avait été en fait cédée par le régime Assad au PKK en 2012 pour entraver la dynamique révolutionnaire. Elle avait d'ailleurs été utilisée par Assad pour consolider le siège d'Alep Est lors des batailles particulièrement sanglantes de décembre 2016. Il est évident que les Russes ont validé l'opération turque, que les États-Unis sont impuissants, mais si effectivement notre sujet est Daesh, il faut rappeler que ceux qui ont combattu Daesh, ce sont les Turcs et leurs alliés actuellement dans cette bataille, dans le cadre d'une précédente opération qui s'appelait Bouclier de l'Euphrate, qui s'était déployée d'août 2016 à mars 2017 dans une région voisine, à partir de laquelle justement ils attaquent Afrine où le PKK n'a jamais combattu Daesh.
Myriam Benrad.
Sur la question des frictions entre États-Unis et Turquie, oui, je suis d'accord. Bon, d'ailleurs, Washington est déjà en train de négocier avec Erdogan une zone sécurisée. L'idée, évidemment, de l'offensive turque étant d'éviter la consolidation du Rojava, donc la jonction des provinces qui sont passées sous contrôle kurde. C'est intéressant, cela étant, parce que ça commence à donner une idée un peu plus précise de cet après-Daesh qui, en réalité, n'est pas synonyme du tout d'accalmie. Les Kurdes, le PKK a appelé à la rescousse le régime de Bachar el-Assad. Donc ça en dit aussi assez long sur la stratégie russe et la stratégie du régime et effectivement ces alliances sur le terrain qui défient, à mon avis, beaucoup des descriptions qu'on en donne. La question étant, quels effets sur la lutte contre l'État islamique? Ce dernier n'ayant pas disparu du paysage syrien, on en parle moins actuellement parce qu'il y a aussi l'offensive de l'armée syrienne dans la province d'Idlib et un paysage djihadiste lui-même très complexe. Cela étant, l'État islamique continue ses attaques, ses offensives, dans des provinces d'ailleurs aussi dont on parle moins. Les ruines, c'est du récit tout cela, hein, parce que les djihadistes sont toujours présents et la guerre n'est pas finie.
Alors, précisément, comment voyez-vous l'un et l'autre la question Daesh évoluer en 2018, à la fois en Syrie et en Irak? Elle a tout de même été annoncée deux fois, hein, la victoire totale de la guerre contre Daesh. En Syrie et en Irak, à l'évidence, on a crié victoire trop tôt, Jean-Pierre Filiu.
Et puis surtout, on a assimilé la reconquête de ruines, parce qu'il faut bien voir que Mossoul était largement détruite, et Raqqa est détruite à 80%. Donc Raqqa, ville où l'État islamique en Irak et au Levant était proclamé, et Mossoul, ville où le califat avait été proclamé en juin 2014. Cela veut dire qu'on a fait des guerres sans aucun égard pour les populations. Mmh. Et le fait de s'appuyer sur le PKK, les milices kurdes, dont on voit qu'elles ont un lien très fort avec le régime Assad et qui s'est maintenu tout autour de cette période, n'a pu qu'aggraver l'antagonisme avec des populations qui, à Raqqa par exemple, sont très majoritairement arabes et tribales. Donc on a un vide de pouvoir, on n'a absolument pas envisagé l'après en termes de transition politique. Et les populations qui étaient marginalisées et qui ont été prises entre deux feux, le feu de la coalition et de ses bombardements d'une part, et la répression atroce de Daesh d'autre part, sortent absolument exsangues. Alors je rappelle un précédent, en 2011, Al-Qaïda en Irak, on avait célébré la victoire, il y avait moins d'un millier d'insurgés, et ils avaient pu, sous la forme de Daesh, reprendre la main en Syrie et en Irak au bout de simplement deux années. Aujourd'hui, on a des milliers d'insurgés djihadistes qui sont dispersés, qui sont protégés, et qui, à la faveur de cette instabilité structurelle de l'après-Daesh qu'évoquait Myriam Benrahad, pourraient reprendre l'initiative ici ou là.
Alors, c'est ce que la question que vous posiez précédemment, Myriam Benrahad, quels effets la forte tension et le chaos dans la région d'Afrine avec l'intervention de la Turquie, quels effets sur la situation de Daesh et la lutte contre Daesh ?
Tout d'abord, comme Jean-Pierre Filu vient de le rappeler, la conflictualité n'est pas finie. On a des guerres civiles qui mobilisent un certain nombre d'acteurs, au-delà de l'État islamique sur lequel on a beaucoup focalisé, je dirais, au plan médiatique. On parle moins d'Al-Qaïda, enfin on en parle beaucoup plus aujourd'hui avec les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, par exemple. Mais enfin, tout cela n'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'autres factions, d'ailleurs, sur le terrain, qui sont aussi à l'œuvre, dont on parle moins. Il n'y a d'ailleurs pas de couverture médiatique véritable. Donc on passe, en fait, d'une crise à l'autre, enfin d'un narratif à l'autre. Donc là, c'est les Turcs contre les Kurdes. On a effectivement eu tout l'épisode de Raqqa avec les tensions, comme vous le disiez précisément, entre les Kurdes, donc ces fameuses forces démocratiques syriennes à majorité kurde, essentiellement le PKK effectivement, et les populations arabes tribales aussi, dont on parle moins, il y a des tensions très importantes. Ça vaut aussi du côté irakien. On passe d'une séquence à l'autre. Donc ça renvoie une image très fragmentée de ces conflits, alors que sur le terrain, la guerre continue. Ce qui vient d'être dit aussi par Jean-Pierre Filu est très important, il n'y a pas de planification de l'après. On est sur du tout militaire, donc effectivement des destructions très importantes infligées à la fois par les bombardements, donc de la coalition conduite par les États-Unis, les bombardements russes évidemment, et les combats au sol, qui mobilisent, comme je l'ai dit, un certain nombre d'acteurs, à commencer par les djihadistes. On prend le cas de Mossoul, si on se déplace en Irak, il n'y a absolument rien aujourd'hui qui se passe à Mossoul, en tout cas Mossoul-Ouest, rien. Les gens reconstruisent un peu, je dirais, comme ils le peuvent. C'est pareil pour Tal Afar, par exemple, une ville où rien ne se passe. La province d'Al-Anbar, qui est le sanctuaire, donc le grand ouest irakien, le sanctuaire d'État islamique à l'origine. Les gens sur le terrain, à Ramadi, Fallujah, donc des villes qui sont en fait encore très instables, témoignent qui se passe pas grand-chose, qui reçoivent pas l'aide nécessaire de la part du gouvernement. Les Américains ne veulent pas s'impliquer plus que cela sur les missions de reconstruction. Donc où va-t-on ? Ben on va vers une reconstitution de toute façon de cette menace de djihadistes, parce que l'idéologie elle est toujours présente, le désenchantement il est toujours là. En termes d'ancrage social, en termes de facteurs socio-économiques, en termes de violence devenue norme sur le terrain, tout cela n'a pas disparu. Je pense que si on prend le cas de l'Irak, effectivement, le scénario 2008-2010 qui a conduit à la reconstitution de l'État islamique dans sa première version est très probable si rien ne se passe. Et je suis très inquiète pour ma part concernant le gouvernement central, les réformes qui sont nécessaires, d'autant qu'actuellement on est revenu un peu à une politique politicienne déconnectée du reste, c'est-à-dire avec ces élections qui vont prendre place en mai, qui sont certes importantes en termes de relance du processus politique, mais enfin si ça ne se traduit pas concrètement par les réformes qui s'imposent depuis plus de 10 ans, ça ne servira à rien, ça ne va pas conduire à une stabilisation, en tout cas, qui est la demande principale des populations sur le terrain, notamment les populations sunnites.
Alors, il faut, on l'a compris, reconstruction des États, incertitude sur l'Irak, probablement incertitude encore plus grande, Jean-Pierre Filu, sur la Syrie. Mais pour en revenir à l'État islamique, la perte de territoire signifie-t-elle que le projet de califat aujourd'hui est réduit à néant ? Et qu'est-ce que cela veut dire sur les intentions à venir de ce qui reste aujourd'hui de l'État islamique, des combattants ? Où est-ce qu'on en est, Jean-Pierre Filu ?
Ils se sont repliés. Ils ont choisi très soigneusement les villes où ils opposaient une résistance farouche et celles où ils se redéployaient pour préserver leur potentiel combattant. Ils ont réussi de faire de Masada, si j'ose, un Masada djihadiste à Mossoul. Si j'ose ce parallèle historique, ils ont quand même obligé la coalition à mener 9 mois de la pire bataille urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il est évident qu'ils ont déjà une forme de reconstitution de ce discours de propagande. Et là encore, ne jamais oublier que les principaux alliés de Daesh, alliés de circonstance, sont souvent ceux qui prétendent les combattre. À partir du moment où le PKK agit fondamentalement, quels que soient les différents sigles qu'il arbore, comme une force kurde à vocation pan-kurde, dont la Syrie n'est qu'un théâtre parmi d'autres, auprès de la Turquie, qui est son théâtre prioritaire, de l'Irak, voire de l'Iran. À partir du moment où le régime Assad n'a aucune envie de reconstruire un pays, où la reconstruction voudrait dire retour de populations qui sont opposées à lui. À partir du moment où le gouvernement central irakien est, comme l'a rappelé Myriam Benrad, complètement absorbé par ses querelles politiciennes et ne veut pas faire une place réelle à la population arabe sunnite qui se sent totalement marginalisée depuis 2003, et à partir du moment où la coalition menée par les États-Unis est exclusivement militaire et dépense des budgets colossaux, les sources du Pentagone pour la coalition anti-Daesh, c'est 14 milliards de dollars. Donc à partir du moment où ces processus vont à l'évidence continuer, Daesh n'a qu'à attendre. Et Daesh est effectivement enquisté, n'a plus son territoire aussi vaste, mais il est enquisté dans toute une série d'endroits. La province occidentale d'Anbar qu'évoquait Myriam Benrad, mais en Syrie, il faut savoir qu'ils sont même dans certaines banlieues de Damas, qui sont au triangle frontalier entre Israël, la Jordanie et la Syrie, et qu'ils ont ainsi toute une série de poches où généralement ils ont bien consolidé leur assise tribale et où on ne voit pas à court terme comment on pourrait les déloger. Donc bye bye Daesh, pas vraiment tout de suite. Et je plains la personne qui devra rédiger le soi-disant comité de victoire, parce qu'il devra mettre tellement de conditionnels, préserver tellement de scénarios pour l'avenir, qu'effectivement ce sera un exercice de haute voltige, au moins littéraire.
Myriam Benrad.
Oui, c'est tout à fait vrai, mais d'ailleurs ça a été reconnu par le Pentagone en décembre. Il y a eu des déclarations récemment où le discours n'est pas un discours aussi victorieux que celui, par exemple, du gouvernement irakien qui a déclaré la victoire à Mossoul, Talafa, enfin une succession. Bon, c'est aussi évidemment très lié à la nécessité pour Haïdar al-Abadi de se légitimer, notamment à l'approche des élections, parce qu'il est lui-même très contesté dans la famille chiite, avec un Maliki qui veut opérer son grand retour politique et d'autres acteurs qui ont aussi leurs ambitions. Du côté de la coalition américaine, en réalité, si vous regardez les derniers communiqués du Pentagone, c'est beaucoup plus réservé. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de menaces à long terme, de métastases, djihadistes, du fait que ce n'est pas fini. Là maintenant, effectivement la question des budgets, elle est assez édifiante, c'est que fondamentalement, on voit bien effectivement qu'en termes de missions civiles, c'est dérisoire. Et ça montre aussi un désengagement en réalité américain sur ces questions, l'absence de vision, ce qui aussi a rendu les États-Unis extrêmement faibles du côté syrien. Il ne faut pas non plus se leurrer. La stratégie américaine n'est pas une stratégie, en réalité, de règlement de ces crises. En tout cas, pas dans les modalités qui sont les siennes aujourd'hui. Et ce qui affaiblit, de fait, la stratégie de l'administration Trump dans les deux pays.
Alors, les grands gagnants, la Russie, l'Iran, bien évidemment, Jean-Pierre Filu, et le président syrien dans tout cela. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a gagné la guerre? Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui?
Vous savez, les concepts de victoire doivent être relativisés quand il s'agit de quelqu'un comme Bachar el-Assad, que j'ai eu à pratiquer dans des fonctions diplomatiques antérieures. Chaque jour où il reste au pouvoir est une victoire pour lui. On est face à un régime dont l'obsession est le maintien d'un pouvoir absolu. Ce pouvoir, à aucun moment, il n'a réellement été contesté. Le prix est abominable. Un demi-million de morts, la moitié de la population syrienne contrainte de fuir ses foyers, soit à l'intérieur de la Syrie, soit à l'extérieur. Mais du point de vue de Bachar el-Assad, il ne bougera de toute façon pas. Il restera absolument intraitable. Alors, grande victoire pour la Russie, mais moins en Syrie même qu'à l'international. Il faut voir que la Syrie a permis à la Russie de se poser comme puissance internationale de retour, capable désormais de traiter sur tous les autres théâtres sur un pied d'égalité. Ne jamais oublier que c'est la reculade sur les armes chimiques d'Obama qui convainc Poutine qu'il peut annexer la Crimée sans craindre de réaction digne de ce nom. Donc, et pour l'Iran, en tout cas pour la République islamique, pour le régime au pouvoir, c'est évidemment une grande victoire, vu qu'on a pour la première fois deux axes de continuité territoriale jusqu'à la Méditerranée, l'un par le nord via les zones kurdes, l'un par le sud passant par la frontière syro-irakienne. Mais je constate que cette grande victoire du régime a été contestée dans la rue, en Iran même, par des femmes et des hommes qui considéraient qu'il fallait mieux que le guide Khamenei, les gardiens de la révolution, s'occupent de leur pays plutôt que d'aller exporter leurs messages et leurs projets révolutionnaires aussi loin des frontières de l'Iran.
Alors, on a quelques minutes pour terminer cette première partie d'émission. La question qui me vient, c'est de quoi est-il question aujourd'hui pour Daesh ? On peut commencer à y répondre. Plusieurs interrogations. Revenir au bercail en Afghanistan. On peut rappeler que les soldats de Daesh en Irak sont initialement des combattants d'Al-Qaïda partis d'Afghanistan sous l'ordre de Ben Laden pour mener le djihad contre l'intervention américaine de 2003. On l'a bien compris, la perte de territoire ne signifie pas disparition de l'État islamique à la fois en Irak et en Syrie. Myriam Benrad, comment voyez-vous les choses ? On n'a pas parlé non plus du Sinaï, j'évoquais l'Afghanistan, de la Libye.
Alors, au niveau de l'État islamique, le bercail, c'est tout de même l'Irak, parce que si vous faites référence à Zarqawi, les anciens d'Afghanistan qui rencontre un certain nombre d'Irakiens une fois l'invasion américaine qui a lieu et le début de l'insurrection. Bon, il y a eu rencontre entre un mouvement transnational, un djihadisme transnational et, je dirais, un terreau irakien. Donc l'Afghanistan, c'est pas véritablement en fait leur bercail. Mais c'est vrai qu'il y a un redéploiement aujourd'hui vers l'Afghanistan. Il y a d'ailleurs la trace de combattants français. En réalité, l'État islamique y opère depuis un certain nombre de mois. C'est pas nouveau, c'est juste qu'on en reparle parce que le foyer syro-irakien semble, entre guillemets, nettoyer, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, c'est bien parce que dans cette émission, ça nous permet aussi de casser un certain nombre de récits qui ne transcrivent pas, à mon avis, la réalité sur le terrain. La présence djihadiste en Égypte, elle n'est pas nouvelle non plus, mais à la faveur de la crise autour du pouvoir du maréchal Sissi, la crise dans le Sinaï avec ses attentats, on découvre ou on fait mine de découvrir une présence djihadiste, ce n'est pas non plus nouveau. Et la Libye, bon voilà, c'est ce que je disais, la séquence libyenne revient aussi. Alors qu'on savait pertinemment qu'en l'absence de processus politique fécond, de rapprochement des deux gouvernements opposés, l'absence d'accalmie avec, encore une fois, là, une fragmentation très importante des acteurs qui ont chacun leur agenda, on savait très bien que tout cela créait un vide qui allait être favorable au retour des djihadistes. On le savait. Donc, il faut faire attention parce qu'on fait mine aussi de s'étonner. Mais il y a l'immédiat, si vous voulez, donc les batailles, les retours, et puis après, il y a les facteurs structurels qui sont toujours en place et qui vont faire que l'État islamique va se reconstituer, même s'il est aujourd'hui largement dans la clandestinité en Irak, par exemple. Mais l'État islamique est toujours là. Le projet aussi est toujours là. Et même s'ils ont perdu une partie de leur territoire entre l'Irak et la Syrie, l'idée de califat, de restauration de califat n'a pas disparu. D'ailleurs, ils considèrent que le califat a été restauré, donc c'est toujours le cas, quand bien même ce califat est privé des territoires qu'il avait conquis à partir de 2014. Il y a d'ores et déjà aussi un phénomène de nostalgie qu'on sent très bien parmi les partisans du groupe pour ce califat qu'ils voulaient restaurer, qu'ils ont partiellement perdu à présent, mais qu'ils vont reconstituer. Donc je pense qu'il est temps, en tout cas si il est question de repenser nos politiques à l'égard du Moyen-Orient, il est temps de prendre en compte cette longue durée. Ce qui n'a jamais été le cas, on a l'impression qu'on jongle un peu d'un pays à l'autre, qu'on essaie de faire du bricolage avec les pouvoirs en place, avec les différents groupes présents, y compris l'opposition, les groupes d'opposition, et puis ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et puis ça correspond pas non plus à ce qui se passe sur le terrain, et surtout on ne prend pas en compte les demandes des populations civiles. Il est temps, je parlais de reconstruction, de prendre en compte les populations civiles, d'où partent ces mouvements radicaux.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Myriam Benrad et Jean-Pierre Filiu, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur Daesh. Nous retrouvons nos invités. Myriam Benrad, professeure en sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, aux éditions Le Cavalier Bleu. Jean-Pierre Filu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages également. Le dernier, Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, aux éditions La Découverte. Nous évoquions à la fin de la première partie de l'émission la question de l'État islamique, un État islamique toujours là, avec un projet qui est toujours là également, le califat toujours là, c'est ce que disait Myriam Benrad. Et il est temps, disait Myriam, Jean-Pierre Filu, de prendre en compte les attentes et les exigences des populations. Comment voyez-vous la reconstruction de l'Irak et de la Syrie ces prochaines années ?
Donc Myriam Benrad a fort justement souligné l'importance de la longue durée. Et c'est vraiment la thèse centrale de mes généraux gangsters et djihadistes. C'est qu'en fait, on a des régimes qui se sont construits soit en encourageant directement la menace djihadiste, hein, c'était le cas en Syrie ou au Yémen, hein, pour les deux dictatures en question, soit en laissant celle-ci se développer du fait de l'incapacité de prendre en compte les attentes des populations où cette menace peut s'enraciner. C'est évidemment le cas en Irak, mais aussi en Égypte, cas pour le moins préoccupant. Il faut quand même rappeler qu'on a une armée d'un demi-million de personnes, qui est censée être la plus importante armée arabe, qui est suréquipée, qui fait face à une insurrection d'un millier de djihadistes dans le Sinaï, région ô combien stratégique, au carrefour de l'Asie et de l'Afrique, et qui ne fait qu'enchaîner les revers. Et c'est là où moi je mets aussi en avant les questions des luttes de pouvoir à l'intérieur des cliques en place dans ces différents pays, parce qu'il est évident que là où on croit qu'il y a priorité dans la lutte contre Daesh, là où ces régimes se vendent à l'international comme étant des remparts contre Daesh, eh bien leurs priorités, ce sont leurs luttes internes. On sait maintenant comment Mossoul a été littéralement abandonné en juin 2014, en quelques jours, face à une force djihadiste qui était relativement limitée, parce que le premier ministre de l'époque, Maliki, était beaucoup plus obsédé par ses problèmes de pouvoir à Bagdad. Et on voit aujourd'hui au Caire, et c'est assez inquiétant, des règlements de compte qui maintenant s'étalent sur la place publique entre les différents généraux autour du président Sissi, qui évidemment affectent très gravement la cohérence de l'action dans le Sinaï. Peut-être d'ailleurs que ces règlements de compte, c'est une hypothèse, sont avivés par l'ampleur des pertes militaires qui ont été infligées par Daesh à l'armée égyptienne dans le Sinaï.
Alors, Jean-Pierre Filu, vous parlez effectivement dans votre ouvrage du détournement des indépendances arabes par des cliques putschistes, avec pour ressort économique l'accaparement des ressources nationales, le recyclage des rentes stratégiques, notamment pétrolières. Vous dites que les guerres globales contre la terreur ont représenté une aubaine pour ces différents régimes confrontés aux revendications démocratiques de leur société. C'est une analyse très fine de la situation et des intérêts de chacun dans tout ce qui se passe. C'était sous-jacent depuis longtemps.
Le phénomène de rente est constitutif de régimes qui n'ont pas de légitimité démocratique, qui ont donc besoin d'une rente gagée soit sur les hydrocarbures, soit sur les transferts depuis l'extérieur, pour pouvoir totalement négliger les attentes de leur population et continuer à fonctionner en vase clos. Ce qui est nouveau depuis le début de ce siècle, de ce millénaire, c'est la rente antiterroriste. Et la rente antiterroriste, elle est aujourd'hui colossale, à la fois financière, mais aussi militaire, mais aussi géopolitique. Et on voit bien que tous ces régimes passent leur temps à cultiver leur image de rempart contre le terrorisme et que du coup, on accrédite le discours sur le moindre mal, sur le fait que ils seraient effectivement des partenaires pas vraiment fréquentables mais relativement efficaces. Alors ce que je démontre, je crois, avec quelques convictions, c'est que non seulement ils sont pas fréquentables, c'est une évidence, ce sont des systèmes vraiment détestables, mais ils sont très peu efficaces dans la lutte contre le terrorisme qu'ils prétendent mener. Je rappelle que Assad, il a quand même eu besoin de l'intervention de deux coalitions, la coalition menée par les États-Unis d'une part, la coalition russo-iranienne d'autre part, pour relativement contenir Daesh, qu'il aurait été bien incapable de combattre par lui-même. J'ai peur qu'un jour, une nouvelle coalition soit obligée de se déployer dans le Sinaï, parce que l'armée égyptienne s'avérera totalement impuissante à y réduire la menace djihadiste. Donc ils sont non seulement corrompus, mais ils sont inefficaces dans la lutte antiterroriste qui est pourtant leur seul titre de gloire à l'international.
Alors des régimes pas fréquentables et très peu efficaces dans la lutte contre les djihadistes, Myriam Benrad, vous partagez, ça nous permettra peut-être aussi d'aborder la question des combattants et de la position des gouvernements étrangers.
Oui, il y a une reprise très frappante du discours sur la guerre contre la terreur qui a été lancé par Bush en 2001 par les régimes de la région. Donc tout ce qui équivaut à une opposition, une forme d'opposition, devient terroriste. Hein, qu'on parle de la Syrie, l'Irak, on a aussi ce discours antiterroriste sous Maliki qui fait qu'on écrase des manifestants qui, au départ, dans les régions sunnites, sont des manifestants qui réclament des réformes, qui ne sont pas passés sous la bannière noire de l'État islamique. Ça viendra après. Ça, c'est un épisode de l'histoire irakienne récente dont on ne parle pas, qui est très important. 2012-2013, on passe d'une contestation, donc dans la foulée des soulèvements arabes, lors de laquelle les manifestants, principalement sunnites, mais en fait, je dis sunnites, également chiites, parce que le mouvement de contestation concerne en réalité tout le pays, qui demande des réformes à une élite, effectivement, coupée de sa population, corrompue, qui est retranchée sur elle-même, qui en réalité ne pense qu'à la préservation de ses privilèges. Eh bien, la réponse, c'est effectivement le langage antiterroriste, la répression massive qui va conduire l'État islamique à pouvoir négocier un certain nombre d'accords et à prendre le pouvoir. La radicalisation, je suis désolée, effectivement, elle est aussi le fruit de l'autoritarisme et de ses manipulations, y compris dans le discours, qui font que ça permet aussi à ces régimes de s'attirer le soutien de l'extérieur et des rentes stratégiques, financières, militaires, des budgets, en gros, attribués pour réprimer, en laissant croire que la répression tous azimuts va conduire à une amélioration ou régler les problèmes. Ce n'est pas le cas. Ça a permis au régime de la région de réprimer des mouvements de contestation, des demandes démocratiques qui, par ailleurs, je le dis, ne sont pas... Parce que le discours, c'est aussi de dire en réalité que c'est un complot de l'Occident, etc. Non, la demande démocratique, en plus générationnelle, très liée à la jeunesse dans ces pays, elle est authentique. Mais ça permet effectivement de réduire, d'annihiler, de faire passer tout cela pour du terrorisme. Le problème, pour en revenir à ce que je disais précédemment, c'est qu'on tombe complètement là-dedans, qu'on est en train de faire du bricolage en termes de politique étrangère, en pensant qu'on va éloigner le problème en apportant notre soutien à des régimes autoritaires qui, effectivement, n'ont pas brillé par leur performance par le passé et qui posent les jalons d'une nouvelle génération radicalisée de djihadistes, de miliciens, etc. Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais dénier à ces populations ces demandes démocratiques, de réformes, etc., qui étaient les leurs, et continuer à croire que ça va mener à une quelconque stabilisation, surtout qu'on est, encore une fois, face à une jeune génération, c'est se mettre le doigt dans l'œil, c'est se tromper et poursuivre dans l'aveuglement. Et donc, on sera forcément contaminé par la violence à venir si la transition prend cette tournure.
Parce que ce que vous décrivez là, Jean-Pierre Feliu, c'est une situation qui est évidemment lourde de conséquences pour la sécurité du monde, avec cette menace djihadiste qui, loin de décliner, finalement, ne fait que proliférer si des solutions précises ne sont pas apportées.
D'autant qu'on a... un contre-exemple que je me garderais bien de qualifier de modèle. La Tunisie a effectué une révolution suivie d'une transition institutionnelle avec une nouvelle constitution. La Tunisie a été la cible, notamment pendant la terrible année 2015, d'attentats djihadistes extrêmement sanglants qui ont compromis toute son économie du tourisme, qui ont jeté le voile sur les performances de ce pays. Eh bien, elle a trouvé dans son système démocratique, système inabouti, système imparfait, comme tous les systèmes démocratiques, les ressources de mobilisation citoyenne face à cette menace. Il faut rappeler qu'il y avait même eu une cité de l'extrême sud de la Tunisie, Beni Gardane, qui avait résisté, c'était la population qui avait résisté pendant plusieurs heures à un assaut de Daesh avant que les forces de sécurité interviennent. On voit bien que ce rapport entre dirigeants et population, entre gouvernement et gouverné, qui pour nous pourrait aller de soi. Au fond, ils se retrouvent très peu dans le monde arabe. Et on a un exemple en Tunisie où, malgré les risques qui sont énormes, hein, l'environnement algérien, libyen, les milliers de Tunisiens engagés dans différentes formations djihadistes, eh bien, la Tunisie n'a pas été déstabilisée. Alors que on voit que l'armée égyptienne a totalement abandonné au moins le nord du Sinaï. C'est pas rien, quand même. Elle a fait la paix avec Israël en 1979 pour récupérer ce territoire. Et là, elle l'abandonne à un millier de combattants. Et on a évoqué la Syrie, l'Irak, dans des termes qui sont en effet très inquiétants. Donc il y a une alternative. Mais cette alternative, elle passe par la prise en compte de la réalité des régimes, qui a fort bien été rappelée par Myriam Benrad, et le fait que, contrairement à tous leurs discours, ils sont incapables d'assumer seuls la fonction antiterroriste qu'ils prétendent mener. Et au fond, c'est un piège parce que les soutenir finit toujours à un moment par s'engager militairement à leur côté. C'est ce qu'ont fait les Russes pour les Iraniens, c'est ce qu'a fait la coalition pour le régime irakien, et je ne sais pas demain ce qui pourrait se passer en Égypte. Donc il y a un vrai risque d'engrenage. Ces régimes pour lesquels on prétend qu'il faut traiter en mettant de côté les considérations morales, eh bien, une fois ces considérations morales mises de côté, on se rend compte que ces régimes nous font rentrer dans un engrenage. Donc les considérations morales, c'est important, parce que ça permet justement d'avoir une boussole, des repères qui nous permettent de s'orienter dans ce grand désordre oriental.
Alors la Tunisie, dont on parlera largement demain, puisque géopolitique sera consacrée à ce pays, risque d'engrenage. Ce qu'on sent aussi, c'est que finalement, côté occidental, la prise de conscience est loin d'être celle-là, ce que vous évoquez l'un et l'autre, Myriam Benrad et Jean-Pierre Filu.
Je pense que la prise de conscience aussi, ça doit concerner vraiment la différenciation à faire entre régime et État. Il n'y a pas d'État en Irak. Hein. Moi, je prends le cas de l'Irak que je connais bien, il n'y a pas d'État. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'institution représentative, il n'y a plus de citoyenneté. Et concrètement, hein, sans aller dans les grandes élaborations, si vous allez à Mossoul aujourd'hui ou dans les villes dites libérées, l'État n'est pas de retour. L'État irakien n'assure pas ses fonctions régaliennes, qui sont des fonctions donc, qui consistent à rétablir la sécurité, à apporter les services élémentaires aux populations qui aujourd'hui en réalité sont en désespérance et qui tirent la sonnette d'alarme parce que les militants vont revenir, ont des sympathies. Tout cela doit être appréhendé au-delà du prisme lutte contre le terrorisme. Comment devient-on terroriste ? Comment ces jeunes Irakiens sont devenus terroristes ? Comment les jeunes Irakiens qui aujourd'hui continuent de dire on admirait les émirs d'État islamique, on est prêt à aller mourir pour l'État islamique encore aujourd'hui ? Ils sont pas sortis de nulle part. C'est la dérédiction du politique dans ces pays. En réalité, ce qu'on appelle le gouvernement irakien aujourd'hui, c'est le gouvernement de la zone verte, replié sur lui-même avec autour un certain nombre d'institutions dites nationales qui sont des institutions qui fonctionnent sur elles-mêmes en parfaite déconnexion avec la population, un grand nombre en tout cas des populations, y compris d'ailleurs les populations du sud chiite dont on parle moins, qui ne sont pas plus heureuses des résultats de cette lutte entre guillemets antiterroriste et des 10 années de pouvoir depuis Maliki. Ça aussi, c'est important, parce que, si vous voulez, on a l'impression, derrière cette idée de régime, de retour de l'ordre, de la répression, qu'on a des États, des institutions, une citoyenneté. C'est pas du tout le cas, c'est effectivement des clics, des gangs, des intérêts, des groupes d'intérêts, le clientélisme et de larges pans des populations qui sont livrés à elles-mêmes dans ces conditions. Toutes les conditions pour un retour, en tout cas, des djihadistes en Irak sont présentes. Ils sont déjà là, ils sont partout, ils ont des complicités partout. Et je crois qu'il va falloir maintenant repenser à notre niveau toutes ces questions, parce que je pense qu'on a une politique qui reste complètement étrangère en fait à ces réalités. En tout cas, si on a voulu se convaincre que bombarder ad vitam aeternam ces pays apporte des solutions, ce n'est pas le cas.
Alors, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des combattants. Que faire des combattants ? Politiquement, on sent la revanche, notamment en Irak. Procès expéditif, condamnation à perpétuité, condamnation à mort. Et puis, les gouvernements étrangers, on ne les sent pas pressés de les récupérer. Jean-Pierre Philippe.
C'est un euphémisme. Je crois qu'on peut quand même mettre le pied dans le plat et dire que les gouvernements occidentaux souhaitaient que le plus grand nombre d'exécutions extrajudiciaires soient opérées sur place pour que le plus petit nombre de djihadistes soient candidats au retour. Cette phase, elle semble terminée avec la fin des batailles de Mossoul et de Raqqa. Donc on est face aux vrais défis de tous ceux qui sont encore vivants. Et il fallait pas être gant clair pour savoir qu'il y en aurait de toute façon beaucoup. Et on voit que le politique est totalement tétanisé par rapport à ça. On a entendu le porte-parole de ce gouvernement dire vraiment une insanité d'un point de vue juridique, en parlant pour des djihadistes aux mains du PKK, donc d'une milice en Syrie, de la possibilité pour eux d'avoir un procès équitable. Jusqu'à présent informé, la France ne reconnaît que des États et ne va pas sous-traiter des opérations de justice à une milice. Heureusement, il n'y a pas eu trop de suites, mais ça en dit long sur la confusion qui règne sur un sujet où là encore, la morale, les principes de droit, des valeurs élémentaires de la République permettraient d'apporter une réponse qui sera au cas par cas, parce que chaque cas est distinct, mais qui sera conforme à l'éthique républicaine.
Myriam Benrad.
En fait, on n'est pas du tout équipé pour les gérer. C'est-à-dire qu'il y a cette question des exécutions extrajudiciaires que le gouvernement, un certain nombre de gouvernements, d'ailleurs pas uniquement la France, souhaitait. En réalité, on est complètement démunis. Bon, mais parce que il y a les questions liées au jugement. Alors aujourd'hui, effectivement, ces déclarations très contradictoires qui sont formulées par les uns et les autres. Reconnaissons tout de même dans ce débat que il est vrai que ces djihadistes ont commis la majorité de leurs crimes en réalité en Irak et en Syrie. Donc c'est compliqué aussi de rejeter l'argument. L'idée qu'ils soient jugés là où ils ont commis leurs crimes. Donc ça, c'est une question. Après, la question des dispositifs, on les prend comment en charge? Parce que en réalité, aujourd'hui, en 2018, il n'y a plus du tout de dispositifs, de mécanismes en place. Je rappelle quand même que dans la foulée des attentats de 2015, on met en place un certain nombre de cellules, de programmes de déradicalisation. Deux ans plus tard, on a tout jeté. Souvenez-vous de l'année 2017, ça a été un peu le moment, la chasse aux sorcières, le moment où on jetait tout. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Enfin, c'est quoi le programme aujourd'hui pour déradicaliser, pour prendre en charge les djihadistes, en termes à la fois d'incarcération, de suivi, donc de prise en charge dans les prisons, la prison revenant régulièrement comme thème central, parce qu'effectivement, ça reste le lieu de la radicalisation djihadiste par excellence. Et ensuite, en termes de réintégration, on parle d'ores et déjà des libérations à venir dans les années prochaines, des djihadistes déjà en cours de détention. On a l'impression, si vous voulez, qu'il n'y a pas de stratégie aujourd'hui, que c'est une cacophonie qui s'auto-entretient et qu'on fait du bricolage. Au niveau français, je pense qu'on a beaucoup jeté de choses vite, en faisant des procès d'intention à un certain nombre de personnalités. Aujourd'hui, en 2018, c'est la crise. Les surveillants dans les prisons, quel programme, comment on prend en charge ces djihadistes. On aurait dû y réfléchir avant, en réalité. Parce qu'on savait très bien, effectivement, comme le disait Jean-Pierre Philuc, que tout le monde n'allait pas mourir dans la campagne de Mossoul ou Raqqa. D'ailleurs, ceux qui ne rentreront pas se sont déjà redéployés ou sont déjà en circulation. On ne sait où, parce qu'on n'a pas toutes les informations non plus. Donc ça traduit une forme d'improvisation, d'équilibrisme dangereux.
On est dans une forme de réaction. En guise de conclusion, Jean-Pierre Filu, Myriam Benrad, sur tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Et...
Moi, je suis convaincu que Daesh peut être non seulement vaincu, mais terrassé. Mais pour cela, les seuls alliés dans la durée sont les peuples, les femmes et les hommes arabes, qui d'ailleurs très souvent ont été en première ligne face à Daesh, à son oppression, et qui ont mené les premiers la résistance sans être vraiment soutenus de l'extérieur.
Myriam Benrad.
Oui, le retour, je pense, à la population civile, par effet de symétrie avec ce qui vient d'être dit, dont est issu l'État islamique. L'État islamique, c'est bien beau de dire c'est une organisation terroriste, les moyens sont terroristes, mais c'est une organisation qui s'est bâtie sur la déshérence politique en Irak, le désespoir d'un certain nombre, parce que je suis désolée, il faut quand même se poser des questions sur cette génération d'Irakiens qui, dans les années donc 2000, étaient en bas âge, et qui arrivaient à l'adolescence, ou dans les premières années de l'âge adulte, sont des kamikazes. Et je crois qu'on se voile la face, encore une fois, à penser que le tout militaire va régler quoi que ce soit. Non, ce n'est pas le cas, ça ne pourra pas être le cas si on ne propose pas autre chose à ces personnes.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Myriam Benrad, professeure en sciences politiques à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, auteure de nombreux ouvrages, dont le dernier, Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, aux éditions Le Cavalier Bleu. Et Jean-Pierre Filliu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Son dernier ouvrage, Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe aux éditions La Découverte. Je signale, pour ceux qui sont à Paris, la tenue le week-end prochain à l'Hôtel de Ville, du Maghreb Orient des livres, table ronde, café littéraire et rencontres sur 3 jours, du vendredi 2 au dimanche 4 février. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Marjorie Bertin et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée à la